ICI. ICI. Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ICI, il est 1h. ICI soutient la musique locale.
Nous partirons. Klemt.
Fallait un jour poser les bases.
Originaire du Mans, Klemt porte cette énergie des terres de province. Force tranquille, humilité, texte fort, l'essence de son écriture, l'émotion, la sincérité et le mot juste.
Sans trop se laisser de marge. Même tri de coups pour prendre le large.
Klemt, un coup de cœur ici même.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Saint-Étienne-Loire.
Complètement gaga.
De vos parler d'ici.
Bonjour Olivier, vous nous racontez une expérience professionnelle aujourd'hui.
Vouille, linguistico-professionnelle. Mais blé. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune kiné qui s'est installée à Saint-Thé, toute fraîche diplômée et persuadée que chez nous, tout le monde parlait comme dans les manuels de l'école de kiné. Le travail, pas de souci, elle en a d'abondes, comme tous les kinés. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était une aide pour les séances de traduction simultanée en gaga. Premier cas, un patient vient pour une rééducation à une prothèse de hanche. Il s'assied, soupire et déclare « Mon problème principal, c'est que j'arrive plus à m'acacasser. » « À vous quoi ?» qu'elle lui rebique, perplexe. « Ben, à mettre acacassant, pardi. » Et là, notre kiné reste planté, croyant qu'il parlait d'un nouveau mouvement de yoga. Alors qu'en fait, bien sûr, il voulait juste s'accroupir. Deuxième séance de la matinée, deuxième quiproquo. Une patiente entre en se tenant le dos et lui dit « Ma sciatique, elle m'a fait kiné !» La jeune praticienne la regarde, ébahie. Ah, vous vous êtes découvert une vocation? Mais la patiente ne voulait pas dire kiné au sens de kinésithérapeute, mais bien kiné, Q-U-I-N-E-R, qui veut dire gémir, pleurer, couiner. La jeune femme s'imaginait qu'à peine arrivée, la patiente voulait lui faire de la concurrence. Troisième épisode, un monsieur arrive, pas très en forme, et déclare, j'ai du mal à me concentrer sur les exercices, j'ai le bas beau depuis quelques jours. Et la kiné de rebiquer, mais si vous avez le bas du corps qui est beau, c'est plutôt positif, non? Mais non, kiné ma blette, avoir le bas beau, c'est ne pas avoir le moral. Et pour finir, la palme de la consultation la plus confuse, une dame entre et lui dit « J'ai eu une consulte ». 5 minutes d'incompréhension plus tard, la jeune kiné découvre que « consulte », ici, ça veut dire « ordonnance ». La tatin, elle est allée la voir, la jeune kiné. Elle m'a dit qu'elle avait bien progressé, parce que après 2 mois à Saint-Thé, la kiné lui a dit « Allez, on s'acacasse doucement, tâchez moyen d'y aller doucement pour pas kiner ». Moi, je suis été la voir, la kiné, pour lui remettre le diplôme du Goya Lauréat.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ICI Besançon.
ICI Besançon.
Premier sur l'actu locale en Franche-Comté.
ICI Matin.
Allez, on passe côté helvétique avec David Aubry qui nous rejoint. Bonjour David.
Bonjour Louise, bonjour à tous.
Un artiste genevois vient d'avoir une drôle de surprise.
Absolument. Alors, si vous vous promenez dans les bois du côté de Genève, vous pourriez tomber sur un espèce de dragon serpent de 4 mètres ou encore un buste de femme.
Mmh.
Alors, rassurez-vous, rien de fantastique ou rien de gore. C'est juste des sculptures réalisées sur du bois mort par un artiste local. Le Jacques Baume, un sympathique retraité, il aime en effet jouer de la gouge et du ciseau à bois. Alors, il s'est dit, je vais faire profiter de mes passions aux promeneurs. Eh ben, mauviette pioche, Jaco, il y a un truc qu'il a oublié. Les fonctionnaires suisses, ils ont la tête dure comme du bois, et quand ils disent non, eh ben c'est non.
Ah pourtant, ces œuvres, elles ne gênent personne, David.
Ben c'est clair que pour l'instant, pas un chevreuil ou un écureuil ne s'est plaint, ni même les promeneurs, de plus en plus nombreux d'ailleurs, pour aller admirer ces œuvres. Oui, mais voilà, le Jacques, il a fait ça sans autorisation, dans une zone boisée appartenant à la ville.
Mmh.
Conclusion, il s'est fait engueuler par les gratte-papiers, et tout doit disparaître d'ici au 31 octobre. 4 mois de boulot, ça représente. Par tous les temps, au fond des bois, du matin au soir, eh ben l'administration s'en fout. Après les outils de précision, il a plus qu'à sortir la tronçonneuse et foutre tout ça au feu.
Bon, la réaction officielle a été assez étonnante quand même. Hein.
Ça s'appelle la douche écossaise version suisse. Un petit coup de pommade pour commencer et un gros taquet pour finir. Je cite, nous tenons à saluer la qualité et la beauté des œuvres d'art réalisées. Cependant, conformément aux principes de gestion des espaces forestiers de la ville, aucune sculpture ni installation artistique n'est autorisée dans les forêts. Point final. La raison, écoutez bien, il faut rendre la nature à la nature. Un arbre qui meurt, ça sert de refuge à plein de petites bestioles, donc on n'y touche pas. Conclusion d'administration, on ne met pas la ville devant le fait accompli. Il n'avait qu'à demander. Et il conclut que s'il avait demandé, eh ben de toute façon, ils auraient dit non. Donc voilà. Le Jacques vient donc d'inventer, bien malgré lui, l'art forestier éphémère. Néanmoins, Loïs, il y a une chose qui est bien. C'est qu'il aura de quoi se chauffer cet hiver.
Oui, c'est ça. Bon, après, c'est quand même bien des heures de boulot foutues en l'air. Merci beaucoup, David, pour cette nouvelle anecdote. Je rappelle qu'on y retrouve toutes vos histoires sur l'application ici, puis sur ici.fr Besançon. Et puis moi, je vous souhaite un très bon week-end. On se dit à lundi.
Bon week-end à lundi.
À lundi, David.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ICI Héros.
Ah mais alors pour le coup, est-ce que les clichés, c'est vrai, quand vous avez des belles carrées, vous mettez des super bonnes bières au frigo, quand vous avez des
exactement.
Anglais, vous mettez du vin de...
Ah oui, oui. Bah, ce ne sont pas des clichés, c'est... Enfin oui, c'est des clichés, mais des clichés qui se vérifient.
Virginie et vous.
Laure a ouvert son gîte en 2020. La maison 1634 est en plein cœur de Pézenas. 130 mètres carrés qu'elle a restauré du sol au plafond. Le contraste entre l'extérieur en pierre et l'intérieur hyper confort et moderne est parfait. On arrive pendant le petit déjeuner. Trois couples sont installés sur la terrasse donnant sur un petit jardin. Des petits guéridons sont dressés avec de la vaisselle soignée. Les produits sont de qualité, locaux, ça se voit et ça se sent. Les langues différentes se mélangent. Du suédois, de l'anglais et du français avec l'accent suisse. L'ambiance est calme et souriante.
Vous avez mis votre verre d'eau ?
Je regardais un peu, il y a un petit jardin. Ça, c'est le petit jardin. Les gens, ils ont accès... Je vous remercie beaucoup.
Les gens ont accès à la piscine, à la petite terrasse. Et en fait, le jardin, comme le jardin est souvent occupé par deux mes enfants.
Deux petites personnes.
Ils vont un peu moins dans le jardin.
C'est ça le principe de la chambre d'eau des gîtes, c'est que vous partagez votre espace perso, ou là vous habitez ailleurs et ça c'est vraiment vos gîtes.
On habite nous juste à côté.
D'accord.
Normalement la distinction entre les gîtes et les chambres d'hôtes, les gîtes c'est peut être complètement indépendant d'une habitation personnelle, alors que chambre d'hôtes on est légalement obligé d'habiter sur place.
Ah, ça,
et d'être ici et de proposer le petit déjeuner.
D'accord.
Alors nous on a fait une configuration les chambres d'hôtes un peu à l'ancienne, il y avait souvent l'espace salon, cuisine, petit déjeuner était partagé. Nous, pour la tranquillité des autres avec nos deux enfants, on a volontairement fait un accès distinct de notre maison.
Oui.
On a chacun une porte d'entrée, ce qui permet aux autres de profiter. On a mis la cuisine à disposition.
Oui, c'est ça que j'avais vu.
Donc en fait, même si on est chambre d'hôte, voilà, si les gens veulent manger un bout, grignoter un morceau, n'importe quand, ils ont accès à la cuisine et
oui.
Ils peuvent profiter. Ils ont un accès indépendant si jamais ils arrivent à 16h30, dès que je suis partie chercher mes enfants à l'école, ils ont le digicode, ils peuvent rentrer dans la maison.
Ouais.
On a voulu faire quelque chose de à la fois confortable, à la fois je suis ici et à la fois je peux être complètement discrète.
Oui, c'est ça.
Parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la personnalité des personnes aussi. Bon, y a des personnes qui pensent parfois réserver un hôtel, en fait.
Ah.
Et arrivent ici... Ah ok, vous habitez à côté, donc ils voient ça comme quelque chose de très positif parce qu'ils savent que je suis disponible.
Oui.
Mais en même temps, je sens qu'ils souhaitent être tranquilles.
Oui.
Et après, des personnes, pour le coup, lorsqu'ils réservent par des plateformes comme Gîte de France, s'attendent à ce que je sois là pour les accueillir.
Aye.
Et quand je leur dis qu'il y a un digicode, du coup, c'est une surprise inverse dans le sens où, ah ok, vous êtes là et en même temps, on peut être autonome. Donc,
oui.
On essaie de satisfaire tout le monde.
C'est pas évident, c'est un vrai truc de sentir chaque personne, effectivement, le besoin de distance et le besoin de présence.
Exactement.
La maison de Laure est labellisée Gîte de France 3 épis, ce qui l'oblige à respecter un certain cahier des charges.
Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est parfait, vous inquiétez pas. C'était très bien, merci, c'est bon.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
the machinations understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smile.
Et nos replays et nos podcasts. Un podcast ici La Rochelle.
Si quelques Parisiens croient que je suis breton, si tous croient que je suis exotique, en réalité, je suis un Saint-Ongeais. Et bien voilà comment Pierre Loti se définissait, et cela montre bien son attachement à notre territoire, et notamment à Saint-Porchaire. Au numéro 96 de la rue Nationale se trouve une vieille demeure discrète, mais essentielle, véritablement, pour notre écrivain voyageur. C'est celle de sa sœur de 19 ans, son aînée, Marie Bon. Une femme libre, cultivée, talentueuse, qui a appris d'ailleurs la peinture à Paris. Hein. Une femme qui a énormément compté dans l'éducation artistique de son petit frère. Marie et son époux, Armand Bon, qui est percepteur, s'installent à Saint-Porchaire en 1865. Et ils vont rester dans le village pendant 13 ans environ. Pierre Loti, alors qui est encore Julien Viau hein, à cette époque, vient passer de nombreux séjours dans cette maison, qu'il a d'ailleurs affectueusement surnommée Fond Bruant. Et ces années à Saint-Porchaire, eh bien, c'est un peu, son laboratoire intime. On y voit naître son goût pour l'aventure et pour les arts. Et puis c'est aussi là aussi qu'il croise son premier amour. Hein. Bref, tout un monde de sensibilité qui restera gravé en lui. D'ailleurs, il a évoqué hein, ses souvenirs Saint-Porcherois dans un roman, Prime Jeunesse, et il dira de cette maison qu'elle a été, je le cite, un des lieux de la terre auquel il s'est attaché le plus passionnément. À quelques pas de la maison, un sentier permet de s'engager dans le vallon du Bruant et de marcher véritablement là dans les pas de Pierre Loti. Ce sentier, il mène vers des grottes préhistoriques et puis au château, au fameux château de la Roche-Courbon. À la fin du 19e siècle, il faut imaginer que ce monument est abandonné. Et pour le jeune garçon, hein, pour le Pierre Loti de l'époque, eh bien c'est un terrain d'aventure incroyable. C'est un site qui va marquer son imagination à tel point qu'il y reviendra dès qu'il le pourra, comme un pèlerin, disait-il. Alors, vous l'avez compris, Saint-Porchaire n'est pas juste une parenthèse dans la vie de Pierre Loti. Le village Saint-Ongeais a façonné et inspiré le futur écrivain. Il y est d'ailleurs resté particulièrement et intimement attaché jusqu'à la fin de sa vie.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Provence.
Vous aimez le cinéma? Bonjour Médéric
Gascarius.
Vous aimez le cinéma?
Oui.
Allez, David aussi.
Mais oui.
Bon, voici un extrait, je suis sûr que ça va vous parler.
Un taxi blanc à grande vitesse.
Il a renversé mon radar.
On s'en occupe, t'as relevé le numéro.
numéro.
J'ai pas eu le temps, il est allé trop vite.
Eh ben alors, ma poule, il faut ouvrir les yeux. Hein. C'est un métier, ça.
C'est un métier, ça me rappelle donc.
La CCM Compagnie.
Taxi. La grande vadrouille. Le film Taxi. Et avec ce radar dans le film, de quand date le premier radar routier? La réponse, c'est 1899.
Non.
Oui, mais à l'époque, c'était pas une grosse boîte qui nous flashait. C'était une autre technique. Et Stéphane Bern va nous la dévoiler tout à l'heure, juste avant le journal de 8 heures. Et vous verrez qu'à l'époque, il y en avait aussi dans la caboche, hein. Comme Médé, d'ailleurs, qu'on retrouve pour le Parler Marseillais tous les matins. Médéric. Alors, vous étiez hier, au Héro Festival, c'est ça?
Ouais, samedi. Ouais.
Samedi, au Parc Chano. Comment ça s'est passé?
Ah, bah, très bien. C'est la première fois que j'y allais. C'était un plaisir de se balader dans les halls consacrés à tous les personnages des mondes imaginaires. Mario, Naruto, One Piece, Kaamelott, et puis pour les gens de ma génération, Goldorak, les Bisounours, Star Wars, la voiture de Starsky et Hutch, et plein d'autres choses. Le meilleur, c'était bien sûr les costumes, hein, parce que c'est aussi un festival de cosplay. Beaucoup de gens sont venus déguisés en chevalier du Zodiac, en personnage de Harry Potter, en tortue ninja, en stormtrooper de Star Wars, en Dark Vador, en vampire, en Pokémon, en Luigi, en soldat. On a même vu un Batman se faire refuser l'entrée, parce que même si on était en costume, il faut avoir le billet pour entrer.
Batman,
tu rentres pas, tu n'as pas le billet, tu rentres pas. Alors par contre, j'ai vu personne en costume de Mooninotor, c'est bien dommage.
Un Mooninotor.
Qu'est-ce que le Mooninotor?
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Vous connaissez pas le Mooninotor, mais c'est le gardien de la grotte de la Mounine.
Ah bon?
Un horrible pachoderme à deux trompes. Oh,
mais... pachoderme.
Mais oui, je vous explique. Mooninotor, c'était le motus à trouver samedi. Alors oui, c'était un peu vache, c'est le cas de le dire, mais ça collait bien à l'esprit du Héro Festival. Le Mooninotor est un monstre imaginaire inventé en 2004 par le groupe Quartier Nord dans son opérette rock marseillaise et les aventures du chichi perdu, dont je porte le t-shirt, regardez, avec un beau chichi doré, vous voyez, sur le poitrail. Là, c'est
la quête du gras.
La quête du gras. Et comme je vous l'ai dit, il garde la grotte de la Mounine et il est représenté sous les traits d'un vigile habillé d'un blouson noir et portant sur la tête deux sortes de cornes blanches qui retombent un peu sur les côtés, qui font aussi penser à des trompes, d'où surnom de horrible pachoderme à deux trompes. Je crois que vous avez compris l'allusion à la Mounine, c'est pas le dessin. Voilà, donc c'est bien une mouvalise forgée sur Mounine et Minotaure. Le Minotaure étant non pas l'enfant de Michel Thor, mais ce monstre légendaire au corps d'homme et à la tête de taureau qui gardait le labyrinthe du roi Minos en Crète et qui a tué Thésée, sauvé par le fil d'Ariane. Dans le livret du groupe Quartier Nord, le Mooninotor est présenté comme, je cite, un videur de nightclub un peu nerveux, au pédoncule démesuré et au parler racaille. Il est aussi qualifié d'espèce d'ongulé. Bref, pas de Mooninotor au Héro Festival, pas de Facomochère non plus, et quelqu'un sur Blue Sky m'a demandé qui était le plus fort des deux. Alors je sais pas, il faudrait organiser un combat entre le Mooninotor de Quartier Nord d'un côté, le Facomochère d'Espigoule de l'autre. Ça ferait un beau jeu vidéo, vous savez, sur le modèle de Street Fighter. On pourrait y ajouter d'autres bêtes, d'autres monstres provençaux, comme la Tarasque, la Garamaude, la Cabre d'Or, ou encore le Viedas de Cornu et la terrible Cagolas Aventouse, dans un livre de Jean Contrucy. Pour finir, à l'occasion du Motus en live qui s'est joué samedi matin, on s'est régalé. Nous avions caché quelques Pokémon surprises qu'il fallait aganter, quelques Pokémon comme avec des noms d'ici qu'il fallait trouver, comme Pikachu, Pikachu, Pikafouch, Pikagol ou encore Pikabestron. Et on pourra en inventer des moulants d'autres, mais avouez qu'il faut être un peu chouchou pour faire ça, ou plutôt Pikachu.
Bravo. Le Mooninotor, une espèce d'ongulé. Donc voilà, on le découvrait ce matin. Merci Médéric. Vous jouez avec le Parler Marseillais, motus.fr, tous les jours un mot à découvrir sur le site internet. C'est le principe. Vous m'expliquez le mot d'hier, là.
Soukaou. Ah, c'est quelqu'un qui un peu trop picolé, qui dort, qui nous dort bien. C'est le souche, en fait. C'est
d'accord. Ok, un peu comme David le dimanche après, après la daube.
Jamais. Après la daube.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Orléans.
Marius, Orléans, 19 ans.
Marius, vous avez une passion toute particulière, les venelles d'Orléans.
Une venelle, c'est une petite voie où une personne peut passer à vélo ou à pied, et souvent c'est gravillonné ou avec de l'herbe.
Pourquoi vous y êtes tant attaché? C'est quelque chose qui est endémique à Orléans? Il n'y a pas d'autres venelles dans d'autres villes?
À Orléans, il y en a beaucoup comparé aux autres villes, puisqu'on en dénombre 25,4 km sur 340 km de rue, donc ça fait à peu près 10%. Ce qui est assez considérable.
Est-ce que vous avez une explication au fait qu'on ait gardé autant de venelles?
Les venelles, elles prennent source vers 1823. Tout autour de la ville, il y avait des vignes. Et donc, à la base, c'était des chemins agricoles qui permettaient de desservir toutes ces parcelles. Et après, avec la révolution industrielle, l'urbanisation a gagné, le bâti s'est densifié. Et donc, on a formé des petits chemins entourés de maisons avec des jardins.
Vous les avez cartographiés, ces venelles? Vous avez un plan? Vous avez tout compté, tout comptabilisé? Ça vous a pris combien de temps? temps de réaliser ce plan?
Ça m'a pris un certain temps, parce que déjà, il faut savoir où elles sont, les trouver. Alors, des fois, on les trouve par hasard, ou sinon, on regarde une carte. Et puis, au fur et à mesure, en regardant leur carte, on découvre qu'il y en a un peu partout dans Orléans. Chaque venelle a une âme particulière. Il y en a certaines qui sont très verdoyantes, avec beaucoup de jardins. D'autres avec plus de maisons, ou encore, il y en a même qui sont traversées par une voie ferrée. La venelle de la Pilonnerie, dans le quartier Saint-Marc. Donc à chaque fois, c'est des originalités.
Il y a trois quartiers, me semble-t-il, où il y a beaucoup de venelles.
Il y a Saint-Marc, il y en a aussi à Saint-Vincent, à Dunois, quartier Madeleine, au Murlin, mais il y en a aussi également au sud de la Loire, à Saint-Marceau et à La Source. Ça fait depuis 2017 que je suis dans une venelle. Alors forcément, il faut adapter son mode de vie au fait qu'on se déplace à pied ou à vélo. Donc les ordures, il faut sortir ses poubelles sur la rue la plus proche. Quand il y a besoin de faire des chantiers, on prend des brouettes, des charrettes, un matériel un peu plus adapté qu'on fabrique des fois.
C'est-à-dire, vous avez fabriqué quoi ?
Une charrette adaptée pile à la taille de la venelle pour transporter tous les matériaux ou les plantes, tout ce qu'on a besoin, les meubles, quand il y a un déménagement par exemple.
Ah oui, ça doit être un enfer quand il y a un déménagement. Quand vous avez aménagé, vous, du coup, il y a 5 ans, ça a dû durer une éternité.
Non, en s'y prenant petit à petit, on arrive à tout déplacer. Bon, il faut savoir s'adapter, mais bon, c'est l'atmosphère venelle. Dans les venelles, on est souvent très proches entre voisins, donc...
Et si vous connaissez si bien vos voisins, ils s'appellent comment alors ?
Il y a Christine, Claude, Xavier, Estelle. Bon. Ici, c'est Passion Venelle.
Ici. Vous écoutez ici.
C'est 100%.
100% chanson française.
Vous écoutez Fleur Bleue, le nouveau titre d'MBL et Ben Mazué.
Un coup de cœur ici.
Si parfois tu te mets en retard, juste pour cueillir un bouquet. Si t'as comme des émotions bizarres, quand tu vois les saisons changer. Si tu pleures à la fin du même film depuis des années, que tu t'es fait tatouer un cœur bien caché. Si par au fond du rêve, que quelqu'un t'attend en secret.
Si on te dit que tu es fleur bleue, si on te dit que tu es fleur bleue, dis-toi que tu n'es pas seul et qu'on est au moins deux. Si t'inventes des grandes histoires dans les transports quand tu t'ennuies, à partir d'un échange de regards, tu t'imagines la vie avec elle, avec lui. Coup de foudre, foudre t'ont fait perdre quelques années. Si parfois rien ne peut résoudre un chagrin d'amour vrai causé par une non-réciprocité.
Fleur bleue,
si on te dit que tu es
fleur bleue,
dis-toi que tu n'es pas seul
et qu'on est au moins deux.
Qu'on est tous au fond les mêmes, mais qu'il y en a qui le cachent un peu mieux. Dans tous nos vieux carnets, il y a des je t'aime. Et dis-toi qu'on est un grand champ de fleurs bleues. Et dis-toi qu'on est tous au fond les mêmes, mais qu'il y en a qui le cachent un peu mieux. Dans tous nos vieux carnets, il y a des je t'aime. Et dis-toi, dis-toi,
et dis-toi
qu'on est un grand champ de
fleurs bleues.
Si on te dit que tu es
fleur bleue, fleur bleue.
Payer le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Bourgogne.
Il s'appelle Frédéric Brand et ça fait maintenant 17 ans qu'il travaille à l'élaboration des créments, des 4 millions de bouteilles de créments de l'entreprise Louis Bouillot à Nuit-Saint-Georges. Il nous fait voir l'envers du décor. Mais d'abord, on s'équipe de chasubles orange fluo.
Sur le site, il y a une centaine de personnes qui travaillent sur le site. Et c'est un site classé IFS BRC. C'est-à-dire qu'on respecte des normes qualité et sécurité consommateur. Et donc, mettre des chasubles qui permettent l'identification des visiteurs avec un enregistrement bien adéquat.
Eh ben, allons-y, ouvrons cette porte.
Oui, on va y aller.
Oula.
Donc, en fait, ici, nous n'avons pas de cave enterrée. Les cuves font jusqu'à 7 mètres de haut.
Ah oui.
7 mètres de haut et une seule cuve représente le volume d'un petit domaine viticole. Ça représente environ 520 hectolitres de vin. Ici, nous avons dans cette cuverie-là 50 cuves différentes. Et cette diversité de cuves, cette quantité de cuves est importante parce qu'en Crémant de Bourgogne, nous sélectionnons les zones géographiques. Mais également, nous avons un grand travail au pressurage où nous séparons la cuvée et la taille que nous vinifions séparément. Et afin d'avoir une grande diversité de profils aromatiques qui vont nous servir de nos assemblages crémants futurs, nous avons besoin d'avoir une grande quantité de cuves qui vont pouvoir mettre en musique nos assemblages pour la suite.
Donc malgré le fait qu'on soit dans un environnement plus ou moins industriel et gigantesque, on a quand même cette notion de terroir, c'est important de le rappeler.
C'est important. Si maintenant je mélange tout, parce que c'est effectivement une seule appellation que l'on vinifie, mais si je commence à tout mélanger pendant les vinifications, après les assemblages que l'on va faire n'auront plus aucun sens. Il faut vraiment respecter ces trois principes, donc le cépage, le terroir et le fractionnement au pressurage qui vont nous permettre justement d'accorder. Il faut savoir que Louis Bouillot a plus d'une dizaine d'assemblages différents et il faut que chacune de ces assemblages ait une personnalité bien précise avec son moment de dégustation et de plaisir propre. Et donc c'est grâce justement à ces diversités qu'on peut avoir ça.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Cotentin.
Il y avait des maîtres charpentiers, en fait, hein, qui, eux, connaissaient à peu près les formes des bateaux et qui étaient réputés pour ça, justement. Il y en a qui avaient le savoir-faire de faire naviguer un bateau sans plan. Et c'était quelque chose qui était très recherché à l'époque. Hein. Chaque type de carène va avoir son utilité, on va dire. Si vous prenez, on va partir
sur... Restons sur le Doris.
Sur le Doris, voilà, qui est derrière nous. Ça, c'est un bateau qui est originaire d'Amérique, voire Canada. En fait, ils s'en servaient pour traverser les lacs gelés. Et donc, c'est un bateau qui a été ensuite emmené sur les Terre-Neuve.
Les Terre-Neuve, ouais.
Parce qu'ils étaient très faciles à empiler. On voit bien la forme, hein, un peu conique, en fait, qui permet de les empiler les uns sur les autres. Et nous, on l'a adapté à nos plages après. Parce qu'on avait des plages de sable et pour débarquer sur les plages, ben, c'était assez facile.
Là, on est sur l'île de Tatillieu. Il y a aussi des bateaux très anciens. Certains, enfin, il y a eu la bataille de la Hougue, il y a eu des bateaux comme ça. Qu'est-ce qui faisait la particularité de ce type de bateau en termes de charpente?
La carcasse qui est sur la pelouse, par exemple. Il fallait 1200 chaînes à peu près pour faire un vaisseau comme ça. Faut s'imaginer qu'à l'époque, il y avait une centaine de bateaux sur l'eau, et sachant que c'était un des plus petits, vous imaginez le nombre de chaînes qu'il y avait pour construire la flottille française, en fait.
Il fallait beaucoup de forêts.
Donc il fallait énormément de forêts, ouais.
Là, c'est des bateaux qui n'ont pas de mâts. Vous avez été amené à travailler sur des mâts, par exemple, et si oui, oui, de quelle façon?
Oui, ça m'est arrivé d'en refaire plusieurs. Ouais. Non, c'est pas si compliqué que ça, c'est long. Il y a juste une technique de traçage, en fait, à connaître. Donc là, vous pouvez regarder derrière, il y a un aviron. Hein. Déjà, il faut essayer de trouver le bois qui va bien, c'est-à-dire avec le moins de nœuds possible, le plus léger possible. Et puis après, on va coller. Et on va toujours partir d'un carré, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on va coller des morceaux de bois entre eux, de manière à obtenir un carré. Et après, ce carré, on va l'arrondir.
En supprimant les arêtes petit à petit.
Voilà.
Et là, ça nous donne un mât.
Au rabot à main. Non. Et puis, on finira au papier de verre. Donc là, c'est sur toute la longueur, avec le petit rabot enlevé millimètre par millimètre.
Combien mesure cet aviron, en fait?
Il doit faire 3,50 m, je crois. Vous voulez que je vous montre? On va venir enlever l'arête, en fait. Et on va faire un copeau qui va faire toute la longueur de l'aviron. Donc le copeau va faire, alors là, peut-être pas 3,50 m, mais il va bien faire 2,20 m. Ouais.
Donc il faut un rabot bien affûté, je suppose.
C'est la base. Voilà, pour finir d'arrondir, on va prendre une bande de papier de verre, et dans le travers, on va poncer comme ça. Ça va arrondir parfaitement la surface.
Mais le papier de verre, donc, vous l'utilisez, mais vous me disiez que ça existait déjà avant.
Effectivement, avant, on utilisait de la peau de roussette, par exemple. Un petit requin, la peau est très granuleuse, en fait, dans un sens, et c'est très abrasif. Donc, c'est un des premiers papiers de verre qui a existé.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Berry. Ici Berry.
C'était quoi avant?
Aujourd'hui, je me trouve au 53 bis rue Ledru-Rollin, devant un huissier de justice. Mais avant d'être un huissier de justice, eh bien, c'était tout autre chose. C'était quoi avant? Eh bien, vous allez le savoir maintenant.
Ici Berry, c'était quoi avant?
C'était quoi avant?
Marco de Rocco mène l'enquête.
C'était quoi avant?
Et donc, pour vous présenter ce que c'était avant ce 53 bis rue Ledru-Rollin, je suis avec Amélie Bourmeau-Binard, guide conférencière de l'Office de tourisme de Châteauroux. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Alors nous voici au 53 bis rue Le Drou-Rollin, mais avant, qu'est-ce que c'était ici ?
Eh bien, avant d'être l'huissier de justice que c'est aujourd'hui, eh bien c'était le gymnase, qui était une société omnisport dont le nom vous dira peut-être quelque chose, la Berrichonne.
Ah oui, on peut pas passer à côté.
Et oui, alors c'est la Berrichonne au moment où c'était donc un club omnisport et donc notamment une salle d'armes. D'où le fait qu'on peut voir là sur la façade deux personnages avec épées, en tout cas des armes sportives. Et donc cette Berrichonne, par la suite, elle a grandi un petit peu au point d'avoir un secteur football et qu'on a donc appelé la Berrichonne Football, qu'on connaît bien aujourd'hui. Son premier président, Léon Talichet, il aussi célèbre pour autre chose. En fait, alors qu'il n'avait que 18 ans, en 1876, au moment de l'inauguration de l'église Saint-André, il a grimpé à main nue jusqu'en haut de l'église, jusqu'au coq, en fait, qui est vraiment sur la pointe d'une des flèches, pour y déposer un traditionnel bouquet. Et donc, Léon Talichet, c'est, comme je l'ai dit, le premier, un des créateurs de la Berrichonne Omnisport et surtout le premier président de la Berrichonne Football.
C'était quoi avant ?
Avec Issy Berry.
Pour décrire un petit peu cette façade, qu'est-ce qu'on peut voir là ? Il y a deux petits personnages.
Oui, c'est ça, on a deux personnages qui se font face. Et on a un premier personnage où on voit bien, il a une tenue plutôt d'escrime avec une épée dans une main, le casque d'escrime dans l'autre. Et puis en face, on a un autre personnage qui est aussi en tenue de sport avec ce qui ressemble à une canne, qui était aussi un des outils qu'on va retrouver dans les salles d'armes sportives, hein, bien sûr, puisqu'on n'était pas là pour se battre et apprendre la guerre, mais bien combattre à titre sportif comme aujourd'hui.
Ici Berry, c'était quoi avant ? En réécoutez podcast sur ici.fr. Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Can have more than they do. I wanted life, I wanted you. Only the very best, a reasonable request. This is too high a price to pay. Well, take me down, down to hell, for I don't care. They can put me anywhere, throw away the key. Oh. Walked a definite line, cutting a dash, cutting it fine. And once, only once, did I lose control. I gave her my soul, and I gave, and I gave, and I gave her my soul. Till today, now I feel a cold decay crawling over me. Over me. No one can have more than they do. I wanted you. Only the very best, no other interest.
he should remain. Never feeling any pain, never growing old. Sleep, little one, your night is here. Oh, it's getting cold.
Écoutez ici la nuit et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Azur.
Engagé, entraînant et inquiet. Je crois que on a tous besoin de sens dans nos vies. On peut pas se lever le matin en se disant tiens, je suis à la retraite, je vais m'asseoir sur un banc et attendre que le soleil se couche, quoi. Ça peut pas être ça la vie. Pour le coup, les restos, ça donne vraiment du sens à une existence.
Qu'est-ce qui vous a conduit au Resto du Cœur, vous, François?
L'amitié. J'ai un ami que je vois souvent, qui me parlait à l'époque où j'étais encore en activité, de son activité au Resto du Cœur, et ça me faisait envie. Je me suis dit, tiens, quand j'arrêterai de travailler, je taperai à la porte des Restos du Cœur. C'est ce que j'ai fait. J'ai été embauché comme chauffeur, quoi. Je faisais des ramasses. Dans les fonctions que j'occupe, là, de président de l'association, il y a beaucoup de communication. En définitive, je dis souvent que les Restos du Cœur, tout le monde les connaît. Mais personne ne sait vraiment ce qu'on y fait.
On peut faire les plus belles choses du monde. Si on ne le fait pas savoir, on n'avance pas.
C'est exactement ça. Il faut faire savoir. Il faut expliquer qui on est. Je fais attention beaucoup à ça, à ne pas verser dans le misérabilisme. C'est-à-dire, faut pas faire pleurer sur les choses, ça sert à rien. Puis c'est pas notre rôle. On est là pour prendre le monde comme il est. On veut pas le changer, on fait pas de la politique, hein. On peut constater que parfois il est injuste et mal foutu. Mais ce qu'on veut, nous, c'est être aux côtés des plus fragiles. C'est notre mission. Faut pas se tromper d'enjeu. On n'est pas là pour faire la révolution. On est là pour aider ceux qui souffrent dans l'instant présent.
La politique, ça vous tente pas?
Du tout, non. Ça m'a tenté quand j'étais tout jeune. Et d'une certaine manière, ce que je fais aujourd'hui, c'est une fidélité à ce que j'étais quand j'étais jeune, et aux engagements que j'avais à l'époque. La boucle s'est bouclée avec ma jeunesse. Ça a pris d'autres formes, qui ne sont pas des engagements politiques, mais des engagements associatifs et solidaires.
Vous êtes plus heureux que s'il n'y avait pas les restos dans votre vie?
Ah, certainement, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, si je n'avais pas ça, moi, j'aurais fait autre chose de toute façon. Oui. Je n'imaginais pas ma retraite à ne rien faire, quoi, ou à jouer aux boules. Vous avez besoin d'être aux côtés des autres, quoi. On n'est jamais heureux tout seul. Être heureux, c'est être dans le monde avec les autres. Ça peut prendre une forme très, très forte qui est d'être aux côtés des plus fragiles. C'est une rencontre, les restos. Enfin, c'est comme tout engagement, hein. Ça se passe ou ça ne se passe pas. Donc, moi, je dis aux gens, venez voir. Rencontrer les bénévoles. On vient pas là comme dans un club de bridge, quoi. On s'engage dans quelque chose. Et puis, il y a une relation à l'autre en difficulté et qu'on aide. Dans cet engagement solidaire, il y a une force qui n'est pas neutre.
On prend le monde tel qu'il est, on va pas faire la révolution. Et pour autant, j'ai envie de vous demander, François, si vous pouviez dessiner là, en quelques secondes, la société idéale, ce serait quoi?
La société idéale, je la connais pas. Je crois qu'elle n'existe pas, d'ailleurs. Ce serait une société où, effectivement, la question de l'alimentation dans les familles, serait entièrement réglé. Notre société est riche, très riche, et malgré cela, elle produit de la pauvreté. Ça, c'est pas normal.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici au Cerf.
Itinéraire bis, cette semaine, nous sommes à Villeneuve-sur-Yonne et aujourd'hui, pause gourmande et sucrée. Je suis à la maison d'Onon. François de Charon, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci de nous accueillir dans cette maison qui a toute une histoire ici à Villeneuve-sur-Yonne.
Oui, effectivement, c'est un passage obligatoire, la maison d'Onon à Villeneuve-sur-Yonne. Elle a été créée en 1920 par la famille d'Onon. Et aujourd'hui, au 1er janvier 2023, j'ai repris l'entreprise et j'essaie de perpétuer cette tradition du pain d'épices et du miel. Moi, je suis arrivé dans Lyon, enfin ma famille est arrivée dans Lyon il y a une quarantaine d'années et on était déjà clients en fait depuis toujours à la maison d'Onon. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai été complètement séduit et conquis à la fois par les produits, par l'équipe et par le cadre idéal dans lequel on exerce notre métier.
Cette maison, vous avez voulu lui donner une autre image. Quelle est la pâte François de Charon ici?
Alors, la pâte François de Charon, c'est d'abord, en fait, perpétuer la tradition et le savoir-faire de la maison d'Onon au travers de nos produits intemporels qui sont le pain d'épices, la biscuiterie, et également le miel, bien entendu. L'idée, c'était d'avoir une image qui corresponde un peu plus à ce qu'attendent aujourd'hui nos clients, une image peut-être un petit peu plus premium et qui se démarque et qui montre en même temps la qualité des produits qu'on fait à la maison de nos.
Et puis, ici aussi, on est au cœur de la maison, à côté de l'atelier de fabrication. Ici aussi, vous avez voulu redonner une autre image à cette maison.
Oui, en fait, quand je suis arrivé, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de clients qui aimaient passer du temps chez nous, qui aimaient regarder ce qu'on faisait, regarder la fabrication. Et donc, j'ai installé effectivement une cour, je l'ai végétalisée, j'ai installé des tables, j'ai mis tout un tas de visuels où on voit le processus de fabrication pour que nos clients, quand ils viennent, ils ont envie de rester et qu'ils soient bien quand ils restent, qu'ils puissent déguster nos produits, boire un café ou une boisson fraîche.
Là, on est dans ce salon de thé, votre création, et puis juste à côté, une boutique qui, elle aussi, est nouvelle.
Alors, elle existait déjà, mais effectivement, on a fait quelques petits changements. On a remis en avant nos produits d'exception, qui sont vraiment le pain d'épices et le miel. Et puis, on a aussi développé toute une gamme de biscuits, qui maintenant deviennent de plus en plus recherchés par nos clients. On essaye d'amener de la nouveauté chaque année, notamment au moment de Pâques et au moment de Noël, où on prépare des créations spécifiques pour ces périodes festives.
Les produits de la maison Donon, on les retrouve ici au cœur de Villeneuve-sur-Yonne, dans cette très très belle boutique, mais sur d'autres points de vente.
Oui, effectivement, on a un point de vente le vendredi à Villeneuve-sur-Yonne également, mais sous le marché couvert, et à Sens le lundi, vendredi et samedi sous le marché couvert. Et nos produits, on les retrouve bien sûr sur notre site e-commerce, où vous pouvez retrouver l'ensemble de notre gamme, les acheter et vous les faire expédier.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Picardie.
Karen Ponte est romancière, elle est picarde et sur ici Picardie, elle vient tous les matins pour donner son billet d'humeur du jour. Karen Ponte s'éparpille. Bonjour Karen.
Bonjour. J'étais au téléphone il y a quelques jours avec mon amie Karine et elle me dit « Tu devrais parler à la radio de l'enfer des codes de validation. » C'est vrai que j'ai déjà évoqué les ouvertures faciles, pas faciles, les chaussettes orphelines, les bouchons de bouteilles qui se décrochent plus des goulots. Je peux continuer cette série évidemment en parlant de d'autres choses agaçantes telles que les mots de passe et les codes de validation.
C'est chiant.
Vous l'avez sans doute constaté, aujourd'hui on doit créer des mots de passe pour tout et pas n'importe quel mot de passe évidemment. Il faut des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, il faut au moins 8 caractères quand c'est pas 10. Et aujourd'hui, parfois, il faut même le changer tous les 6 mois. Mmh. Et comme on l'oublie, on clique sur mot de passe oublié, on est obligé d'en recréer un, bref, c'est l'enfer sur Terre.
Oui.
Mais comme si ça n'était pas suffisant, aujourd'hui, en plus des mots de passe, on reçoit des codes de validation.
Oui.
Soit par texto, soit par mail. Et une fois sur deux, eh bien évidemment, on ne les reçoit pas, ces codes de validation. Ouais. Ils doivent s'en douter sur les sites, parce que si vous l'avez repéré, vous pouvez cliquer sur « Réenvoyer le code ». Donc, eux-mêmes savent que ça ne marche pas tout le temps. Et évidemment, on ne parle pas de ces fameux CAPTCHA. Vous savez, ces petits trucs qu'on doit confirmer qu'on n'est pas un robot en cliquant sur des images avec des feux tricolores. Comme on ne voit jamais ce qu'il y a écrit, on clique sur tout. Et évidemment, ça ne marche pas. C'est mon amie Karine qui a raison. Finalement, je crois que je préfère encore collectionner les chaussettes orphelines.
Oui.
Je vous dis à lundi. Et d'ici là, rappelez-vous, quatre focus, c'est bien, mais quatre éparpillés, c'est encore mieux.
Karen Ponte, romancière picarde, qu'on retrouve tous les jours, du lundi au vendredi, sur Ici Picardie. À retrouver, évidemment, sur notre site. Site ici.fr.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
In the name of
Ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici RCFM.
Le premier métier de Jean-Noël Pont terrissait l'agriculture. Il continue à perpétuer à Ghisonaccia le savoir-faire familial.
On avait par le passé des grandes cultures, que ce soit maïs, fourrage et tout ça, qu'on a laissé tomber doucement pour des raisons qui nous sont propres, pour développer la viticulture et l'arboriculture. Vigne, viticulture à la cave d'Aguillon, arbo, donc clémentine et avocat, production bio à la Capique.
Jean-Noël et sa compagne ont eu l'opportunité il y a quelque temps de se lancer dans la restauration en reprenant à Merendel un établissement à Miatcha.
C'est vrai, c'est quelque chose qui nous a toujours, ma compagne et moi, qui nous a toujours plu, qui nous a toujours attiré. Et quand on a su que cet établissement était en vente, voilà, on s'y est intéressé parce qu'on a trouvé que c'était malgré tout, on n'y venait pas spécialement, honnêtement, mais c'est un endroit qui nous plaisait, qui nous a toujours attiré de par son emplacement, son histoire aussi, parce que c'est un vieux restaurant quand même. C'est pour ça qu'on n'a pas souhaité changer le nom. Cet endroit, ça a toujours été la Merendille. Ça nous paraissait cohérent que ça reste la Merendille.
Le couple de restaurateurs travaille les produits régionaux.
Principalement sur les produits régionaux du local. Voilà. Parce que c'est vrai que de par notre activité, on connaît beaucoup de monde, on connaît des maraîchers, on connaît les pêcheurs, on connaît les producteurs, voilà, les agrumiculteurs, tout ça. Donc, et c'est vrai que ce côté contact direct avec le producteur, c'est toujours sympa en fait. Et même de le mettre en relation avec les clients. Ça arrive des fois qu'on on prend de la charcuterie à Vetsagne, Paul Fante, il est vetsanaise, qui en a mis à moi. Et des fois, quand il vient manger, c'est sympa de dire aux gens, voilà, le prisotto que vous mangez, il vient de chez lui.
Jean-Noël travaille aussi les produits issus de son exploitation agricole.
On travaille après l'avocat, quand il y a nos avocats qui sont là, on le travaille beaucoup, pendant à peu près 3 mois. On travaille aussi, voilà, la base d'agrumes qu'on fait nous, les clémentines principalement. Et oui, on a un assez grand jardin aussi sur Maison Pierraggi. J'habite là-bas, qui est pas loin de la maison. Et on a pas mal de légumes qui viennent du jardin. Pas tout non plus, hein, bien sûr. On prend chez Caroline Médor, et à côté, le jardin du Fumour. On prend ou chez les grossistes aussi. Hein. Mais voilà, là par exemple, en ce moment, c'est les butternuts, les potimarrons, Là, j'ai encore des aubergines en plein champ. Hein. C'est pas du bio, mais c'est du naturel.
Parmi les espoirs de Jean-Noël Pont, Thierry, attirer de nouveaux clients et maintenir son activité commerciale.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Alsace.
La plupart des outils qu'on achète aujourd'hui sont pensés pour mourir jeunes. Oui. Et à l'inverse, ici, on forge des objets qui sont faits pour durer. En cet endroit, le métal chante, l'enclume et le marteau trônent au milieu de l'atelier. Je teste donc pour vous, non pas le métier de forgeron, mais celui de taillandier. Je suis à Eschbach-Rauval, sur les hauteurs de Münster, à la taillanderie Luquet. Alors elle est très discrète, hein. Elle est incorporée comme ça dans un sous-sol d'une maison, et j'étais très loin d'imaginer ce qui se prépare derrière. Alors je pousse la porte et je suis très vite accueilli par Soumia. Soumia Luquet qui s'occupe, elle, de gérer les projets, les commandes et la communication de Simon, son mari, qui lui est dans l'atelier. Et de là où je suis, ah bah ça sent le métal chaud, oui. Mais il fait quoi Simon, si c'est un taillandier et non un forgeron? C'est là que Soumia m'explique que tous les taillandiers sont forgerons, mais que tous les forgerons ne sont pas taillandiers. Et un peu comme son nom l'indique, eh bien c'est un artisan qui est spécialisé dans la fabrication d'outils tranchants forgés, comme par exemple des haches ou des ciseaux à bois. C'est bon, c'est clair pour vous aussi? Parfait. Allez, on pousse la porte de l'atelier. Ouh ! Ah bah oui, il fait chaud. Oui. Et ça sent le métal. Et il y a des outils, mais alors partout. Et Simon, eh bien il est chaud patate. Oui, il a déjà préparé un outil en cours d'assemblage et ça va être à moi de lier l'ensemble. Et cela, sans me blesser, ni me brûler, ni le brûler lui. Enfin bref, grosse pression. Hein. Alors bien évidemment, Simon me montre une première fois. Et frapper le métal incandescent, ah ben c'est pas juste une histoire de force. Ah non, non, non. C'est aussi et surtout une question de précision. Et c'est justement ça, le problème. Alors Simon, lui, il vise juste bah, le bruit est net. Ça paraît super simple. Oui, ça paraît, oui. Puis il me tend le marteau. Je saisis avec pas beaucoup d'espoir. Mais un seul objectif, réussir à taper le métal. Tape le métal, Maxime. Montre que t'es capable. Et c'est avec toute ma détermination que je démarre le geste dans un élan splendide de doute et d'incertitude. Simon, lui, est stoïque. Et en moins d'une seconde, le temps ralentit quand le marteau vient épouser de toutes ses forces. L'enclume, oui, mais pas la pièce qu'il supporte. Bing ! Le marteau rebondit maladroitement. Le bruit sonne creux. Le visage de Simon se crispe avant de sourire.
Un grand moment.
Alors Simon et le marteau, eux, c'est une grande histoire qui est d'ailleurs reconnue par ses pairs, hein, parce que Simon a d'ailleurs collaboré à la fabrication des haches de charpente traditionnelles qui ont été utilisées pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
La classe quand même.
La maison Luquet propose d'ailleurs des stages immersifs accessibles même aux débutants. Oui, 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 à tous les débutants, même les plus maladroits. La preuve, je me suis même pas blessé. Et ça, franchement, c'est balèze.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Pays de Savoie.
La place du village, c'est notre rendez-vous quotidien avec les frères Jean-Noël et Philippe de Paris à la rencontre des Savoyards et Hauts-Savoyards. Et aujourd'hui, c'est Philippe qui est avec nous. Philippe, vous nous racontez une très étonnante visite sous terre à Ugine.
Ah oui, on est à Ugine, en Savoie, et c'est une rencontre absolument étonnante. Et ce jour-là, on est accompagné par Rudy Lauberton, qui nous fait pénétrer, Laurent, carrément sous la montagne. En fait, nous sommes dans des tunnels de la guerre. Il nous conduit dans des abris anti-aériens de la Seconde Guerre mondiale. Des abris construits juste avant la guerre. Et comme il nous dit, comme on avait des usines sidérurgiques juste à côté, les avions pouvaient les bombarder. Voilà pourquoi il y a des tunnels. Et là, il nous conduit dans un tube qui lui appartient. 90 mètres de long, 2,50 mètres de diamètre. Et il nous dit là... On est juste au-dessous du centre-ville d'Ugine. Juste au-dessus de nous, on a même le musée du Crécherel. Et c'est là que Rudy nous explique qu'il a un jour décidé d'occuper ces tunnels. Il avait pourtant déjà entendu que ces tunnels avaient déjà servi de cave à affinage pour les bons fromages de chez nous.
Bon, le suspense a assez duré, Philippe. Qu'est-ce qu'il y fait exactement?
Eh oui, qu'est-ce qu'il y fait? Et c'est là qu'il nous fait découvrir une étonnante ferme, l'Aubricole. Tenez-vous bien, l'Aubricole.
Ah oui.
Et oui, Rudy élève des vers. Il y cultive aussi des endives et des champignons. Et là, il nous raconte comment il a découvert la lombriculture. culture, c'est l'élevage des vers de terre, hein, pour mettre dans les lombricomposteurs. Composteur, vous avez peut-être ça chez vous.
À la différence de vous, vous les descendez, les vers.
Vous les descendez. Et il s'agit donc de ces déchets organiques, le compost, vous savez tout ce que c'est. Oui. Et donc, il va récupérer le terreau, mais aussi, tenez-vous bien, le jus fait par les vers, qui dit-il, c'est le meilleur engrais naturel, le jus de vers. Nous, on ne savait pas trop ce que c'était. Eh bien, ce sont ces vers de terre que vous mettez, je pense, dans votre compost. Il y a aussi le jus, il ne faut pas l'oublier. Et Rudy nous explique que le vers l'occupe surtout l'été, parce que l'hiver, qu'est-ce qu'on en fait des vers? On n'en fait rien. Et pendant l'hiver, il s'est donc mis à cultiver des endives, et puis donc du mi-novembre jusqu'au mois de mars. C'est vrai que pour que l'endive soit bien blanche, nous dit-il, pour qu'elle n'ait pas d'amertume, elle doit rester totalement dans le noir, et là, c'est l'endroit idéal.
Alors, les vers, l'endive, mais il y a aussi les champignons.
Eh oui, les champignons, des amis du noir aussi. Ils cultivent les fameux rosés des prés, mais aussi la pleurote. L'endroit est parfait, nous dit-il, 15 degrés, 85% d'humidité. Et là, il nous fait quelques confidences. Le champignon de Paris pousse sur du fumier de cheval, la pleurote sur du peuplier broyé, et le fameux shiitake, ce champignon étonnant, sur du chêne broyé. Le shiitake, vous savez qu'il a des vertus magiques, il fait pousser les dents, pousser les cheveux, et empêche de vieillir.
Et si vous voulez encore lire et écouter toutes les rencontres des frères de Paris pour la place du village, c'est sur notre site ici.fr.
Ici. Que restera-t-il après ton départ? Un dernier sourire sur un quai de gare. Que restera-t-il après ton silence? Quelques souvenirs malgré la distance et toutes ces habitudes que l'on oubliera. Certains de mes pulls que tu garderas, mais qui prendra le chemin? Du son de ta voix, où sera ma maison si ma maison c'est toi? Que restera-t-il quand viendra l'automne? Des photos de toi dans mon téléphone, ni un changement d'adresse, un fond de vodka et d'autres promesses qu'on ne tiendra pas. Et tu prendras le chat, et tu prendras le chat. Bien aimé, mais tu as pris le chat. Mais tu as pris le chat. Rêver du même idéal, un peu beau, un peu bancal. On s'est bien aimé, mais mal.